8h en temps universel, 10h ici à Paris. Merci d'écouter RFI. Bonjour à tous. Dans 10 minutes, le début de votre émission appel sur l'actualité consacrée à vos questions. Et dans 40 minutes, la libre antenne RFI vous donne la parole. Coup de gueule, commentaires, analyses, vos réactions sont les bienvenues au standard 33 9 693 693 70. Vous pouvez également communiquer et nous contacter via les WhatsApp et Facebook de l'émission. Mais en attendant, place au journal international, et c'est en compagnie de Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Namori, bonjour à toutes et à tous. Des juges américains face à l'administration Trump, ils sont plusieurs à s'insurger contre les nombreuses dérives autoritaires du président américain. L'exécutif est notamment sous la menace d'une procédure d'outrage au tribunal. À la une également, le travail de mémoire lancé par Emmanuel Macron à l'occasion du bicentenaire de l'octroi de l'indépendance à Haïti. Le président français n'a toutefois pas évoqué clairement d'éventuelles réparations financières. En Inde, nous le verrons, des projets de développement militaire et touristique menacent des peuples autochtones. Et puis du football en fin d'édition, on connaît le carré final de la Ligue Europa. Droits de douane, immigration, mesures discriminatoires, la justice américaine met l'administration Trump sous pression. Le bras de fer est de plus en plus intense. Alors le pouvoir exécutif américain peut-il céder sous le poids des plaintes déposées à son encontre ? Pour ce deuxième mandat, Donald Trump a pour l'heure choisi de ne pas se plier aux décisions de la justice. Mais cette semaine, deux juges menacent désormais directement l'administration fédérale si elle continue à bafouer leur jugement délibérément. Les explications de notre correspondante aux États-Unis, Karine Hutton.
Deux juges estiment qu'il y a de fortes chances pour que l'administration Trump soit reconnue coupable d'outrage au tribunal, puisque des jugements sur des déportations de migrants illégaux n'ont pas été respectés. Ils laissent quelques jours à la Maison-Blanche pour y remédier avant d'émettre leur jugement définitif, mais celle-ci a de toute façon déjà annoncé qu'elle ferait appel. D'autres juges, eux, bloquent certains des ordres exécutifs pris par Donald Trump. Des embauches de fonctionnaires, le déblocage de fonds gelés dans le domaine du climat et des infrastructures ont été récemment ordonnées, mais le républicain accuse les juges d'usurper les prérogatives du pouvoir exécutif et sape leur réputation sur les réseaux sociaux. La sanction d'un outrage au tribunal pour un particulier, ce peut être soit de la prison, soit une amende, soit les deux. Pour une administration, c'est plus complexe, mais surtout, ces crises révèlent bien les limites des tribunaux à faire respecter leurs décisions face à un pouvoir exécutif qui piétine les règles. C'est pour ça que certains analystes sont convaincus que les États-Unis sont au bord de la crise constitutionnelle. Karine Hutton, New York, RFI.
Les républicains au Congrès lancent une enquête sur Harvard. La prestigieuse université est accusée de violer les lois sur l'égalité. Donald Trump menace d'aller encore plus loin en supprimant l'exemption d'impôt accordée à Harvard qui propage selon lui la haine et l'imbécilité. Depuis plusieurs semaines, l'exécutif a engagé un bras de fer financier avec plusieurs universités américaines accusées d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme pendant les mouvements étudiants contre la guerre à Gaza. À Gaza, justement, et cette nouvelle nuit meurtrière, le sud de l'enclave a été la cible de l'armée israélienne. La défense civile palestinienne annonce ce matin la mort de 15 personnes, parmi lesquelles 10 membres d'une seule et même famille. Des nouvelles frappes qu'Israël n'a pas commentées dans l'immédiat, mais qui illustrent la reprise il y a un mois jour pour jour de l'offensive sur le territoire palestinien assiégé. RFI, 4 heures passées de 4 minutes à Port-au-Prince, 10h04 à Paris. Et cette question, comment estimer le prix de la liberté payé par Haïti à la France ? Cette question, elle a été posée par Emmanuel Macron, qui annonce la création d'une commission franco-haïtienne d'historiens pour se pencher sur le sujet. Il y a 200 ans, la toute nouvelle République haïtienne obtenait son indépendance en échange d'une indemnité exorbitante demandée par la France. Eh bien, 2 siècles plus tard, le président français a pour la première fois reconnu que la mesure exigée par Paris était injuste, sans pour autant évoquer d'éventuelles réparations financières. C'est ce que reproche notamment Frédéric Thomas, chercheur au Centre Tricontinental, une ONG basée en Belgique.
Je pense que c'est une annonce contradictoire. Du côté positif, c'est une prise de parole publique au sommet de l'État qui reconnaît le problème de cette dette. qui appelle à une commission mixte qui sera co-présidée par l'une des plus brillantes historiennes haïtiennes sur la question. Côté négatif, il n'y a aucune référence au terme de réparation et de restitution. Et par ailleurs, c'est une méthode biaisée. Il aurait mieux fallu commencer par la reconnaissance des faits, une demande de pardon, avant de s'en lancer dans une commission, parce que à l'heure actuelle, il y a un consensus assez large parmi les historiens sur les faits. Il faut une restitution matérielle. Maintenant, les conditions, les modalités de cette restitution, c'est à négocier avec des acteurs et des actrices haïtiens. Donc, c'est pas à la France à décider seule. Réparer, ça suppose à la fois de demander pardon, de reconnaître cette injustice et de s'engager dans un processus de retour sur l'histoire, la manière dont cette histoire est transmise, mais encore de changer la politique actuelle à l'égard d'Haïti.
Frédéric Thomas, auteur du livre « Haïti, notre dette ». Après les révélations de la Cour des comptes dans l'affaire du fonds de Covid-19, 5 anciens ministres de Macky Sall pourraient être poursuivis. Un fonds de 1000 milliards de francs CFA avait en effet été débloqué par les autorités sénégalaises pour faire face à la pandémie de Covid en 2020. Alors cette question, y a-t-il eu des fautes de gestion et des malversations? Eh bien, les autorités judiciaires sénégalaises ont procédé à une série d'arrestations. L'Assemblée nationale doit maintenant se prononcer sur les éventuelles poursuites concernant les 5 ex-membres de l'exécutif dont l'identité n'a pas été révélée. En Inde, quand des projets de développement militaire et touristique menacent les peuples autochtones, les premiers habitants des îles d'Andaman sont en danger. La vie de ces tribus sur cet archipel situé entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est est en péril, et ce face au projet d'expansion du gouvernement indien. Correspondance de Combastin.
La loi indienne interdit tout contact avec les sentinelles ou les champens présents dans les forêts des îles Andaman depuis des dizaines de milliers d'années. La presse se fait souvent l'écho des mésaventures de ceux qui s'y risquent. Un missionnaire américain tué par ces autochtones en 2018, un youtubeur arrêté en avril par les gardes-côtes. Les alertes sur leur survie se multiplient depuis l'annonce par le gouvernement indien de vastes projets de développement. Ports, aéroports internationaux, centrales électriques, bases militaires et parcs industriels doivent sortir de terre dans les décennies à venir. Survival International estime que ces investissements, chiffrés à plus de 8 milliards d'euros, vont entraîner l'arrivée de 650 000 nouveaux habitants sur l'archipel et qu'il sera dès lors impossible de protéger les tribus locales, notamment les champens, du contact avec le monde moderne. L'ONG alerte sur un génocide culturel, sanitaire et territorial en puissance. Le gouvernement affirme que les droits des indigènes seront respectés, mais il est très difficile pour les journalistes d'enquêter sur place. Combastin, Bangalore, RFI.
On connaît le nom des 100 personnalités les plus influentes du monde. Le magazine Time vient de publier son classement. 2 Français se trouvent cette année dans ce classement aux côtés de personnalités comme l'athlète américaine Serena Williams ou le président syrien Ahmad Al-Shara. Léon Marchand et ses 4 médailles d'or au dernier JO fait donc honneur à la France. Il est aux côtés de Gisèle Pelicot. Tom Malky revient pour nous sur les critères de ce classement par le Times Magazine.
Ils apparaissent à la catégorie « icônes », l'un des 6 groupes de cette liste qui se concentre sur les individus qui, je cite, « transforment le monde et les forces de ceux qui façonnent nos vies ». Chaque personnalité fait l'objet d'une justification par un expert ou un journaliste du Time. C'est donc le cas des 2 Français. Gisèle Pelicot est devenue une icône auprès des victimes de viol depuis le procès qui a condamné son mari à 20 ans de réclusion criminelle. La célèbre féministe américaine, Gloria Steinem, écrit « Chaque matin, quand Gisèle Pelicot arrivait dans ce tribunal en France, la tête haute, elle refusait par là d'être sous la domination d'un ordre patriarcal qui a asservi les femmes depuis si longtemps. Également dans ce classement, Léon Marchand, quadruple médaillé d'or de natation au JO de Paris, à 22 ans seulement, et dont la motivation à mettre le premier la main sur la ligne d'arrivée a capturé l'attention du monde entier. C'est ce qu'écrit la championne canadienne Summer McIntosh. À Paris, poursuit-elle, le monde ressentait cette énergie quand Léon nageait. Léon est simplement inarrêtable.
Tom Malky du service France de RFI. Et puis un mot de sport et de football. 3 buts concédés en 7 minutes et l'aventure européenne de l'OL se referme sur une énorme désillusion. Après avoir mené 4-2 hier soir, les Lyonnais sont éliminés en quart de finale de la Ligue Europa par Manchester United. Vainqueur au bout du suspense à l'issue des prolongations, les Red Devils filent en demi-finale où ils rencontreront Bilbao. Tottenham, qui s'est défait hier soir de Francfort, affrontera de son côté côté les Norvégiens de Bodø Glimt. Et donc pour les Lyonnais, fin de l'aventure européenne, il faudra désormais se concentrer sur le championnat de France, la Ligue 1, avec dès ce dimanche un match important contre le rival de Saint-Etienne, match à 20h55, heure de Paris ce dimanche. RFI, merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, appel sur l'actualité avec vous, Namori Dosso.
Merci, c'était le journal de Simon Bourtembourg.